Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui notre club média au collège Gaston Doumer rencontre deux pros des médias, Timothée et Martin, deux journalistes. On va découvrir ensemble leur métier, leur portrait et leur projet. Allez, c'est parti.
Bonjour, moi je m'appelle Martin Baudrero, c'est mon nom de famille, je viens de Montpellier et voilà, je suis journaliste en radio principalement.
Et bonjour à tous, moi c'est Timothée Vinchon. Je suis journaliste de presse écrite, basé à Marseille.
Êtes-vous tous les deux journalistes radio ?
Moi, je suis journaliste radio de métier. J'étais formé à l'école de journalistes de Grenoble et j'ai pris la spécialité radio. Ouais, parce qu'à ce moment-là, déjà, je traînais dans des radios associatives qui s'appellent les Radio Campus, qui sont des radios étudiantes. Et du coup, ouais, je travaille principalement en radio depuis 12 ans maintenant. D'abord à RMC et ensuite pour des studios de podcast, c'est-à-dire qui créent de la radio sur Internet, hein, des formats. Et maintenant pour France Bleu Héros.
Et moi, je suis principalement journaliste de presse écrite, mais ça m'arrive de faire quelques émissions, pour des émissions de France Culture notamment.
Vous travaillez sur quel sujet en général ?
Alors moi, je travaille plutôt sur un sujet qui est celui des mouvements sociaux, c'est-à-dire les manifestations, les grèves, les gens pas contents, pour dire ça gentiment. J'ai travaillé là-dessus depuis quasiment le début, et notamment, j'ai cofondé un média qui s'appelle Radio Parleur, qui est un média de podcast dédié aux luttes sociales, où l'idée, c'est d'aller voir et suivre des gens qui décident de se mobiliser, par exemple, parce qu'ils trouvent qu'ils sont pas assez payés pour un salaire, ou parce qu'ils veulent pas qu'on rase une forêt pour construire un aéroport, ou ce genre de choses. Et c'est un peu ma spécialité, même si elle est assez large.
Alors moi, je suis un journaliste qui est relativement généraliste, c'est-à-dire que je m'intéresse à beaucoup de sujets. Généralement, c'est plutôt des sujets société ou des sujets sur la jeunesse.
Depuis combien de temps vous faites ce métier ?
Moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme et je suis devenu journaliste il y a 7 ans. J'étais à ce moment-là basé en Tunisie. Et à travers les expériences que j'ai pu avoir, je me suis formé auprès de d'autres personnes qui étaient elles-mêmes journalistes.
Et de mon côté, j'ai un parcours un peu plus classique, je disais. J'ai fait un bac SES, une licence de sociaux, et j'ai tenté les écoles de journalisme. Et j'ai eu En fait, quand on dit les écoles, c'est qu'il y a 14 écoles qui sont reconnues par la profession des journalistes comme des écoles bien, on va dire, mais c'est un peu dur pour les autres. Et j'ai eu une école qui s'appelle l'école de journalisme de Grenoble. Et après, avec des stages et tout, j'étais lancé dans ce métier. Et voilà, depuis, ça continue.
Pourquoi avez-vous voulu devenir journaliste ?
Alors c'est une très bonne question parce que comme je vous disais, moi j'étais pas journaliste à l'origine et c'est vraiment l'actualité de l'endroit où j'étais qui m'a donné envie de devenir journaliste. C'est-à-dire qu'en Tunisie, en 2011, il y a eu des révoltes, on appelle ça les révolutions arabes notamment, et beaucoup de choses ont évolué dans le pays et j'ai eu vraiment envie de les documenter, d'expliquer au public notamment français ce qui se passait là-bas et c'est pour ça que je suis devenu journaliste.
Dans quels médias travaillez-vous et est-ce qu'ils sont connus ?
Alors, moi, aujourd'hui, je travaille à France Bleu Héros, ça fait partie du groupe Radio France, radio publique. Oui, je crois que c'est un peu connu, en tout cas comme un média de service public assez reconnu. Et avant ça, tu vois, j'ai travaillé pour des studios de podcast qui sont moins connus. C'est pas forcément une obsession lorsqu'on travaille pour en tant que journaliste de se dire il faut absolument que je bosse pour les plus connus. Il y en a sans doute pour qui c'est important, hein, et chacun son truc. Mais l'idée c'est plutôt de travailler avec des gens qu'on trouve intéressants. Moi j'ai aussi travaillé 6 ans à RMC qui est une radio un peu nationale et j'y suis resté parce que j'apprenais plein de choses tous les jours et j'apprenais mon métier. Tu vois, c'est une petite rédac qui fait plein de choses. Et un jour, tu faisais un petit sujet simple, je sais pas, sur le Vidourle, par exemple, sur voilà, une crue, sur des choses comme ça. Et l'autre jour, tu te retrouvais à couvrir des choses qui n'ont rien à voir, de la politique, des choses comme ça. Et moi, j'aimais beaucoup ces choses très variées. Donc, c'est plutôt ça que je cherchais dans mon métier, que je cherche encore aujourd'hui, que être dans la radio la plus connue ou le média le plus connu.
Et moi, je travaille pour à la fois des médias locaux. Donc, par exemple, à Marseille, il y a un média qui s'appelle Mars Actu, qui s'intéresse à l'actualité de la région de Marseille. Je trouve ça intéressant parce qu'on s'intéresse vraiment aux vies des gens qui sont juste à côté de nous. Et je travaille également pour la presse nationale, donc des médias qui sont diffusés partout en France. Et là, ça permet d'expliquer un endroit, des territoires à toute la France, plus largement.
Est-ce que vous voyagez beaucoup ? Et quels sont les dangers du métier ?
Alors la première question, est-ce que je voyage beaucoup ? Par rapport à d'autres journalistes, beaucoup moins. Il y a des journalistes qui sont spécialistes des sujets en dehors de France et qui vont être régulièrement dans d'autres pays, etc. et qui vont voilà, avoir un bilan carbone en termes d'avion un peu dingue. Mais moi, je me suis beaucoup déplacé au début dans d'autres pays parce que je trouvais ça hyper intéressant d'aller voir autre chose. J'ai été pas mal en Tunisie. C'est marrant, on y était au même moment d'ailleurs, Timothée. On en reparlera. Donc ça, c'est intéressant. Et après, maintenant, là, je me suis de moins en moins parce que lorsque je travaillais sur les luttes sociales, je me suis beaucoup aperçu, notamment dans les années 2017-2018, il y a eu un gros mouvement local qu'on appelle les Gilets jaunes, dont vous avez peut-être entendu parler, et qu'en fait, il se passait beaucoup de choses chez nous et qu'il fallait arrêter d'aller voir tout le temps ailleurs. Et une dernière chose qui fait que je voyage moins dernièrement, c'est que j'ai eu une petite fille et que quand t'as un enfant ou autre, bah, tu peux moins te barrer pendant une semaine, deux semaines ailleurs. Et du coup, bah voilà, maintenant, je suis plus sur la région de Montpellier et sur tous les routes.
Et moi, je voyage de temps en temps. Donc, comme je vous disais, j'ai déjà commencé à travailler en Tunisie. Donc, c'était un pays que je découvrais en même temps que je couvrais. Et j'ai pu partir en Argentine, au Brésil, couvrir des sujets. C'est toujours hyper intéressant parce que ça nous donne un prétexte pour découvrir d'autres pays. Après, c'est souvent intéressant de rester dans un pays pour comprendre un peu la vie telle qu'elle s'y passe et pas juste le découvrir comme un touriste. Donc, ce qui est bien, c'est d'essayer de rester longtemps dans un pays. Et pour répondre à ta deuxième question sur la dangerosité du métier, c'est un métier où parfois on va à des endroits un peu inédits, un peu exclusifs. Et donc, il peut y avoir des endroits où on pourrait imaginer qu'il y a du danger. Mais en tant que journaliste, et on le verra dans la seconde partie de l'émission, on essaie de toujours se préparer au maximum pour que les risques soient les plus faibles possibles. Donc, on s'entoure, donc on part avec des personnes qui connaissent le terrain sur lequel on va. Ce qui fait que généralement, on évite les risques.
Oui, il faut se rendre compte que l'image que vous avez en tête quand vous nous demandez le danger, je pense que c'est les reporters de guerre ou des choses comme ça. En plus, on voit beaucoup de choses en ce moment avec les conflits au Proche-Orient et en Ukraine. Ça, c'est quand même une petite partie hein, des journalistes. C'est assez spécifique. La plupart vont quand même sur des terrains où normalement, la guerre n'est pas en cours tout le temps. Après, il y a des fois un danger aussi juste d'être au mauvais endroit, de gêner, de rendre les gens tristes par nos questions, de rendre les gens voilà, d'être mal accueillis parce qu'on arrive avec nos questions qui des fois sont dérangeantes. Et c'est peut-être ça ce danger auquel on doit nous plus faire attention que le danger que vous avez en tête de bah, juste que des gens nous tirent dessus ou qu'il y a un problème.
Quels sont les genres de projets que vous faites ?
Alors, comme on vous l'a détaillé, on fait beaucoup d'articles et d'émissions de radio. C'est la base de notre métier, de faire ces productions. Et à côté de ça, et c'est pour ça qu'on est là aussi, on fait beaucoup d'ateliers et de formats avec des habitants directement. L'idée, c'est que nous, au-delà de produire des choses journalistiques, on se dit que c'est important que les différentes habitants, enfin les habitants en France comprennent comment fonctionne le journalisme et à quoi il peut servir. Et du coup, on se rend souvent dans des collèges, mais aussi dans des établissements type EHPAD ou sur des marchés, tout bêtement, pour discuter avec les gens de ce qu'ils pensent du journalisme et essayer de créer avec eux des petits contenus médiatiques.
Radio Doumer, la radio du collège.
Alors, on va démarrer tout de suite sur la deuxième partie de l'émission. On est toujours avec Timothée et Martin. Donc, le sujet, ce sera le journalisme en général. Pour vous, quel est le rôle que doit assurer un journaliste ?
Le rôle que doit assurer un journaliste, je pense que c'est vraiment permettre à celles et ceux qui l'écoutent, ou qui en tout cas lisent ses articles ou voient ses images, de se faire une opinion la plus solide possible, la plus documentée possible sur un sujet. Par exemple, je sais pas, là on a dit qu'on allait parler des crues du Vidourle, donc des inondations. Essayer de donner tous les enjeux qu'il y a autour de cette question de l'eau. Les enjeux pour les agriculteurs, les enjeux pour les agricultrices, les enjeux pour, je sais pas, les gens qui boivent de l'eau potable. Donner tous ces enjeux-là et donner une vision le plus solide du sujet pour que les gens puissent se faire leur propre opinion et faire des choix ensuite, notamment, bah, je pense au vote, hein, des choses comme ça, des choix les plus éclairés possibles. Je pense que déjà, si on arrive à faire ça, on aura réussi un truc incroyable.
Qu'est-ce qu'un bon journaliste ? Comment faites-vous pour vérifier vos informations ?
Pour être un bon journaliste, Martin le disait tout à l'heure, l'essentiel, c'est vraiment la curiosité, selon moi. L'idée, c'est de, sur n'importe quel sujet, en fait, réussir à trouver les bonnes personnes pour répondre aux questions.
Ouais, j'ajoute qu'une autre chose importante, qui est parfois dure à faire, c'est de respecter, la loyauté du débat. C'est-à-dire que permettre à tous les acteurs d'un sujet actrice, donc celles qui sont pour, celles qui sont contre, celles qui ne savent pas trop, de s'exprimer, que chacun ait sa place. Et on ne dise pas forcément dès le début dans notre sujet, ça c'est la bonne chose à penser, ça c'est la bonne chose à voir, et les autres ont tort forcément. Donc trouver cet équilibre, on donne la parole à tout le monde, et tout en respectant à chaque fois notamment une obsession qu'on a à nous, c'est les faits. On vérifie qu'à chaque fois tout ce qui est dit existe réellement, c'est pas une invention. Et c'est pas fait méchamment, hein. Les gens disent pas tout de suite je vais faire exprès de mentir. Des fois ils sont trop motivés, je sais pas, vous avez déjà vu dire ah, on était des millions dans la rue, etc. Bah non, les chiffres c'est 100 000 personnes, les chiffres c'est ça. C'est toujours revenir à ce que sont les faits les plus documentés possibles.
Et aussi, pour en rajouter, pour vraiment vérifier nos informations, on interroge différentes sources. On essaie de croiser les informations, c'est-à-dire de vérifier qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui pense telle chose ou qui a un avis sur un sujet, mais on va explorer ça auprès de plusieurs personnes.
Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de journalistes et lesquels ?
Oui, il y a plein de sortes de journalistes. D'abord, il y a des journalistes par thématique, il y a des journalistes sportifs, il y a des journalistes spécialistes de politique, donc il y a plein de journalistes très différents. Il y a aussi, dans ce métier, plein de métiers différents, en fait. On dit le journaliste, mais c'est pas le même métier d'être journaliste et d'aller à l'étranger, faire des reportages ou juste d'aller tout le temps sur le terrain. Ça, c'est plutôt un ou une reporter que de présenter des émissions. Un journaliste présentateur qui reste, par exemple, je pense à Radio France, hein, une émission qui fait tout le temps, chaque semaine dans son studio, ça en fait pas moins un journaliste, mais c'est un rôle qui est un peu différent parce qu'il va moins rencontrer les gens. C'est plus un journaliste qui crée du débat, de la discussion. Donc, il y a plein de manières de faire. Des bonnes, des mauvaises, ça c'est un peu comme il y a des bons plombiers, des mauvais plombiers, voilà, ça, c'est dans tous les métiers. Mais effectivement, il y a des journalistes très différents et aussi dans leur approche.
Et également, il ne faut pas oublier que derrière les journalistes qui présentent ou les journalistes qui vont explorer des sujets, il y a beaucoup de personnes qui sont à la technique. Derrière un sujet journalistique, et notamment vous le savez en radio, il y a des personnes qui sont derrière les écrans et derrière les boutons pour que tout fonctionne bien. Donc il y a plusieurs métiers aussi au sein du journalisme.
Voilà, il faut être toujours sympa avec son technicien ou sa technicienne parce qu'il peut vous couper le micro à tout moment, donc on est très gentil avec.
Est-ce que le journalisme est un métier à plein temps ?
Pour moi, en tout cas, ça l'est. C'est un métier que je pensais tout de suite à plein temps et que j'essaye de pratiquer à plein temps. Ça demande aujourd'hui, ça a été longtemps un métier où je faisais tout le temps la même chose. Je faisais des reportages pour les journaux qui passaient à la radio. Maintenant, c'est un métier qui est plus divers maintenant depuis quelques temps. Là, par exemple, c'est du journalisme. Et quand je dis les journalistes différents, on vient à la fois dans les écoles apprendre à des jeunes et des moins jeunes aussi, parce que c'est pas que dans les écoles, à qu'est-ce que c'est notre métier, qu'est-ce qu'on fait, comment ils peuvent le pratiquer eux-mêmes. Moi, je fais aussi des articles moi-même, je les écris, et je vais aussi à la radio faire des chroniques, raconter des choses. Donc ça peut être très large, mais oui, en tout cas, c'est aujourd'hui mon salaire et mon métier à plein temps.
Il y a aussi une petite distinction à faire entre les journalistes qui travaillent pour une rédaction et qui sont embauchés par cette rédaction et les journalistes indépendants. C'est plus ou moins notre cas à nous deux. On est indépendants, c'est-à-dire qu'on travaille à notre compte et en collaboration avec différents journaux ou différentes radios en fonction des sujets qu'on traite.
Comment vous débrouillez, vous vous organisez pour préparer vos émissions, ce genre de choses ?
Ça dépend du nombre d'émissions que tu as à faire en peu de temps. Si tu animes par exemple une émission quotidienne, c'est un travail assez dingue en termes de radio. C'est-à-dire que tous les jours, si tu as par exemple ton émission, elle est de 13h à 14h, d'accord ? 14h, l'émission est finie. C'est comme si tu t'arrachais tout ce que tu avais fabriqué et tu recommences un nouveau truc. Donc c'est vraiment une machine à avancer très très vite. Après, quand tu as le temps, et c'est ce qu'on espère avoir, hein, c'est des fois difficile, tu peux préparer ton sujet, préparer, apprendre des choses sur ça, appeler des gens aussi qui savent mieux que toi, des chercheurs, des chercheuses, des gens qui sont sur le terrain. Je pense que personne n'est capable de mieux expliquer les crues du Vidourle que des gens qui, je sais pas, qui sont pêcheurs sur le Vidourle ou qui connaissent le terrain, quoi. Donc voilà. Donc c'est un long travail des fois, et des fois c'est un peu la partie immergé, ouais, ça sous l'eau de l'iceberg, où on voit pas ce travail-là pour finalement produire 10 minutes, un quart d'heure de son. Des fois, ça a demandé 3-4 jours de préparation.
Généralement, moi, j'essaie de partir comme si je connaissais pas grand-chose du sujet pour ne pas oublier de poser des questions à quelqu'un. En fait, souvent, on se dit, travailler sur un fleuve ou sur une rivière, j'ai déjà fait, puisque je l'ai déjà fait à Marseille. Sauf qu'en fait, chaque endroit et chaque sujet est très différent. Donc, il faut vraiment se partir en estimant qu'on n'y connaît rien et aller se renseigner auprès des habitants, auprès des spécialistes.
Comment faites-vous pour trouver des sujets ?
Il faut être curieux. Vraiment, c'est le maître mot de ce métier. Ça passe par plein de choses. Être au courant, les oreilles les plus ouvertes de tous les événements qui ont lieu dans ta ville. Se dire, ah là là, dis donc, cette conférence où vient un chef papou, là par exemple, ça pourrait être incroyable comme sujet. Aller le voir, aller le rencontrer. Moi, j'avais aucune idée. Là, par exemple, j'ai appris en discutant ce midi. Ça pourrait typiquement être un sujet, je me dis, peut-être ça n'a pas été fait, je vais le proposer à un média qui est intéressé par les questions d'écologie. Et c'est entretenir un réseau de gens qui sont actifs dans ta ville, dans ton territoire, je sais pas, des militants, des gens qui travaillent à la mairie, qui disent, regarde, en ce moment, il se passe ça. Et après, tu peux le proposer à des rédactions quand tu sens que tu as accroché quelque chose qui pourrait les intéresser.
Et oui, pour ajouter à ce que dit Martin, vraiment, la première des choses, c'est vraiment de parler au maximum avec tout le monde. Rien que là, quand on est arrivé, donc c'est notre premier jour à Sommières, et avant de venir au collège, on allait se boire un café, on a discuté avec la personne qui tient ce café, on a discuté avec les personnes qui prenaient des cafés pour comprendre un peu la ville, ce qui se passe en ce moment, quels sont les problèmes.
Est-ce qu'on peut avoir plusieurs employeurs ?
Oui, en l'occurrence, nous, on a plusieurs employeurs. Là, typiquement, en ce moment, notre employeur, c'est... alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est la direction régionale ou c'est la communauté de communes, c'est l'un ou l'autre, en tout cas. C'est ça. Moi, mon employeur le plus courant, c'est France Bleu, Radio France. Mais ça peut être aussi, des fois, juste pour un article, un média, comme qu'est-ce que j'ai pu Arte ou autre. Enfin, vous voyez, c'est des choses assez différentes. Donc oui, il y a des journalistes qui sont tout le temps au même endroit. Ils sont en CDI, en contrat, dans une rédaction. Et il y en a qui proposent leurs services selon les sujets qu'ils ont en main.
Si par exemple c'est le métier qu'on va faire plus tard, est-ce que le métier de journaliste est bien payé ?
C'est variable. Il y a une partie de la profession qui gagne très bien sa vie. Parce qu'ils rentrent, ils sont en CDI dans une grosse rédaction type, je sais pas, France Inter, Le Monde, tu vois. Et c'est plutôt un métier bien payé avec une convention collective qui te protège pas mal, c'est-à-dire que tu as des droits sympas. Après, il y a un tiers des journalistes, je sais plus le nombre exact de journalistes en France, mais il y a un tiers des journalistes qui sont ce qu'on appelle pigistes, précaires. Et là, ça peut être très variable. Ça peut être difficile d'aller faire un salaire parce que tu n'arrives pas à vendre assez d'articles, parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui, comme toi, proposent des sujets. Donc c'est un métier qui peut être à la fois très précaire ou très stable, selon où on est, mais qui, pour les plus jeunes aujourd'hui qui rentrent dans ce métier, est souvent, au début, assez précaire. On met du temps à en faire un salaire qui tient le coup.
Et pour rajouter à ce que dit Martin, c'est un métier où si on passe par les écoles pour y arriver, c'est souvent assez sélectif. Dans le sens où, notamment sur connaître l'actualité, avoir une culture générale, c'est des choses qui sont très exigées pour intégrer ces écoles et pouvoir devenir journaliste derrière. Après, avec de la motivation, tout se fait. Comme je vous disais, par exemple, moi, j'ai même fait d'autres études, puis je suis devenu journaliste, mais il faut s'accrocher.
Voilà. Pour finir, peut-être c'est un des métiers où les nouveaux journalistes sont le moins issus des écoles, de ce truc de j'ai suivi le bon parcours. Je crois qu'il y a un tiers des nouvelles cartes de presse, vous savez les journalistes on a une carte de presse chaque année environ, qui n'ont pas fait d'école de journalisme, ont fait d'autres études et ont appris comme ça, sont rentrés dans le métier en pratiquant en fait, en commençant à faire des articles.
Qu'est-ce qui vous plaît ou pas, parce que je suppose qu'il y a des choses qui vous plaisent pas, dans votre métier en général ?
Ce que j'adore c'est que je rencontre chaque jour des nouvelles personnes. Et chaque jour, je rencontre des personnes, surtout que j'aurais jamais rencontré autrement. C'est-à-dire que ce soit ici, comme je vous disais, en m'asseyant au bistrot pour boire mon café avant de venir, bah je discute avec des personnes qui ont une vie qui est très très éloignée de la mienne, et je prends le temps de voir avec eux ce qui sont les enjeux de leur territoire, ce qui leur pose problème dans la vie, dans leur pratique, dans leur métier. Et c'est ça qui est génial.
Ouais, c'est la rencontre, je suis complètement d'accord avec Tim, c'est vraiment un des plaisirs, on est payé pour apprendre des trucs. Genre on nous paye pour dire voilà ce sujet que tu avais jamais fait avant, tu connaissais rien, maintenant tu vas apprendre des trucs et tu vas demander à des gens intéressants, passionnés par le football, la pêche, la politique, pourquoi ils sont passionnés. Donc c'est vraiment toujours très rigolo à faire et il y a vraiment plein de choses intéressantes. Donc ça c'est une chance. La deuxième c'est que en radio notamment, on nous donne l'occasion de parler à plein de gens d'un coup. Moi quand je parle au micro de France Bleu Héros, il y a 70 000 personnes au minimum qui écoutent. C'est énorme. Et je leur suis, j'espère. En tout cas, j'essaye de leur être utile et de les informer au mieux. Je trouve que c'est un métier où j'ai la sensation de servir à quelque chose, de faire un truc socialement utile.
Est-ce qu'il y a une grande figure du journalisme qui vous a inspiré ?
C'est toujours une question difficile. Une grande figure. Il y a plein de journalistes qui sont intéressants. Moi, j'ai du mal avec le côté... Il y a des stars journalistes qu'on voit à la télé, etc. Et tout. Si je devais en citer une en ce moment que je trouve hyper intéressant, je vais citer un truc un peu bateau, mais je suis très, très impressionné par Florence Aubenas, qui est une journaliste reporter au Monde et qui est romancière. Parce qu'elle a ce truc où elle raconte la vie des gens en étant à côté d'eux, sans jamais les juger, sans jamais décider de faire que les gens qui sont riches, que les gens qui sont connus. Elle va chercher des gens des fois qu'on n'a jamais connus, qui ont peut-être des histoires qui eux-mêmes se disent « mon histoire, elle n'intéresse personne ». Et elle les raconte, elle les fait vivre et elle leur donne une dignité, une force qui est impressionnante. Et je trouve qu'elle fait ça avec aussi beaucoup de simplicité quand tu la rencontres. C'est une dame, juste une dame sympa, quoi.
Moi, ce serait vraiment pas une personne, mais plus quelque chose que j'adore, c'est les radios associatives. Et les personnes qui travaillent pour les radios associatives, je trouve ça assez génial de s'impliquer sur un territoire et alors bénévolement parfois on est salarié de ces radios associatives, mais de donner à voir le métier de journaliste et aussi de parler de son territoire avec les gens de son territoire. Moi, c'est vraiment ces personnes-là qui me donnent le plus envie de continuer à travailler.
Nous sommes sur cette dernière partie de ce podcast et nous sommes toujours avec Tim et Martin. Bonjour Mathilde, qui est conseillère numérique. Comment s'appelle le projet ?
Donc le projet, c'est une résidence de journaliste. Le point de départ de ça, c'est que moi, mon métier, le but, c'est d'intervenir sur le territoire du pays de Sommières pour proposer des animations en lien avec le numérique. Et une de mes missions, c'est l'éducation aux médias. Donc j'ai fait un appel à projet au sein de la DRAC. La DRAC, c'est la Direction régionale de la culture. Pour que les journalistes qui sont ici aujourd'hui participent pendant 3 semaines et découvrent notre territoire. La thématique de cette résidence, on est parti sur la thématique de l'eau. L'eau dans le passé, l'eau dans le présent et l'eau dans le futur. Donc en général, les enjeux de l'eau sur le pays de Sommières.
En quoi consiste le projet ?
Ce projet, l'idée d'une résidence de journalistes, c'est que 2 journalistes professionnels viennent résider un temps dans le territoire où ça se passe, donc ici dans le territoire de la communauté de communes des Pays de Sommières. Donc c'est vraiment l'idée, on vient sur place et on va réaliser avec des habitants et habitantes du territoire, donc vous par exemple, des jeunes du collège, mais ça va être aussi des habitants, des membres d'associations, ça va être des membres peut-être d'un café ou des habitants juste qui auront envie de rejoindre nos stages, parce qu'on va faire des stages radio. On va travailler ensemble sur l'histoire de l'eau, l'histoire des inondations, qui est quand même un truc classique de la région dans laquelle on est, où il y a beaucoup d'inondations historiquement, et aussi les enjeux qu'il y a en ce moment, les questions de sécheresse, plein de choses comme ça. Et du coup, la volonté qu'on avait, c'est de proposer une réflexion autour de ça et de permettre à des gens de s'emparer d'un micro, s'emparer du média, comme vous le faites là aujourd'hui, et de faire leurs propres questions, leurs propres émissions sur un sujet comme celui-là.
Ce qu'on a envie aussi, c'est, au-delà de la résidence de journaliste, d'initier un maximum de personnes à la production de contenu médiatique. Et cette résidence, elle est faite aussi en partenariat avec Radio Sommières, la radio associative du coin. Et finalement, en fait, les personnes qui vont participer à nos ateliers et à la résidence, ce qu'on a envie, c'est qu'après cette résidence, elles puissent participer aussi à tout ce que fait Radio Sommières.
Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ?
Très bonne question, qu'est-ce qu'on va se faire ensemble ? On va faire de la radio, on va faire des podcasts. Donc c'est-à-dire qu'on va créer du son, là, comme on est en train de le faire actuellement. Et l'idée qu'on a, qu'on vous propose de faire, hein, d'ailleurs peut-être que c'est pas la meilleure idée, que ça se discutera avec celles et ceux qui vont participer. Pour l'instant, l'idée qu'on a, c'est de créer des balades sonores, principalement. Les balades sonores, c'est quoi ? C'est proposer à des gens qui vont vous écouter. On va créer des contenus que les gens vont écouter. Et en se baladant dans Sommières, ils vont s'arrêter, par exemple, Place de la République ou sur le pont romain, etc. Et à chaque fois, ils auront un petit morceau d'histoire de la ville, un petit morceau d'histoire autour de l'eau, voilà, avec un témoignage d'un habitant, une habitante. Vraiment un petit bout de reportage, quoi. Et après, ils repartiront marcher plus loin sur le Vidourle, etc. Et le but, c'est que ça, c'est pas Tim, c'est pas moi qui allons le faire, on va accompagner les gens. C'est des gens comme vous, les collégiens ou des lycéens ou des gens plus âgés, enfin, en tout cas, des habitants et habitantes qui vont le faire et qui vont passer du temps là-dessus. On va créer des stages pour faire ça ensemble et apprendre à le faire ensemble.
Ce qu'on a envie, c'est d'impliquer un maximum de monde. Et il y aura à la fois ces stages pour créer ces balades sonores. Et il y aura aussi différents temps qu'on est encore en train de déterminer. Mais des temps aussi de ce qu'on pourrait appeler de médiation, avec des temps où on va juste, par exemple, écouter des podcasts ensemble. Ou des temps où on va se poser sur le marché, les différents marchés du territoire, pour discuter avec les gens de ce qu'ils pensent du journalisme et aussi qu'ils nous racontent leur territoire à des moments où ils s'y attendent pas forcément.
Qu'est-ce que ça va donner à la fin ?
À la fin, si tout va bien, on va avoir pas mal de petites émissions radio, ces balades sonores que j'ai citées, aussi peut-être des extraits des rencontres qu'on aura eues. Si on a le temps d'organiser, on espère organiser des conférences, donc des rencontres avec des gens spécialistes de l'eau, puisque le sujet c'est l'eau. Où là, ce serait vous, par exemple. Ces conférences-là, on va surtout les faire au collège et au lycée. Donc des élèves du collège et du lycée qui ont préparé, comme vous l'avez fait en fait pour ce coup-là, là, préparer des questions, préparer des choses, etc. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir vraiment plein d'extraits de choses différentes, des extraits de conférences, des choses, et qu'on puisse ensuite soit diffuser sur Radio Sommières, qui est la radio qui va en diffuser le plus, ou aussi, typiquement, les balades sonores, ça pourrait être l'office du tourisme qui les reprend, et quand des gens viennent visiter Sommières, on leur dit « Ah bah, on a des balades sonores créées par des élèves du coin, ils vous font découvrir leur ville. » Et leur rapport au Vidourle, qui est en plein cœur, est-ce que ça vous dit de découvrir ça, quoi ? Et voilà, c'est d'avoir des trucs un peu sympas à proposer aux gens et de découvrir ce territoire autrement que l'énième visite historique ou un truc comme ça, plein de choses un peu nouvelles.
D'où est-ce qu'elle vous vient cette idée ?
Elle vient de plein de choses. Elle vient d'une dizaine d'années à faire de l'éducation aux médias avec plein de jeunes différents. Donc c'est des choses qu'on a déjà fait des fois ailleurs, dans d'autres formes. Donc il y avait vraiment cette envie-là. Et puis là, on nous a signalé qu'il y avait la communauté de communes qui recherchait une équipe de journalistes. Et on s'est dit, mais c'est un super endroit pour faire ça, parce que Sommières, moi, je connais un peu, je vous avoue, je venais ici quand j'étais ado, avec mon papa, en vacances. Et du coup, c'est un endroit que j'avais un peu en tête. Et c'est un endroit où il se passe... Il y a vraiment un truc autour du... C'est au bord du Gard, mais c'est tout près de l'Hérault, c'est pas loin de Montpellier, c'est pas loin de Nîmes. Il y a plein de choses en fait différentes dans cette ville. Et je trouve qu'il y a quelque chose à raconter d'une ville qui n'est pas forcément connue par ceux et celles qui n'y habitent pas. Et pourtant, je trouve qu'il y a plein de choses à découvrir. Moi, c'est ça qui m'a motivé.
Moi, je trouvais que le territoire était aussi hyper intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait passé, présent et futur. C'est qu'il y a quelque chose où on peut faire dialoguer plusieurs générations. Les histoires par exemple de l'eau et les histoires des inondations, c'est beaucoup les parents, les grands-parents qui les racontent. Et en même temps, il y a des enjeux pour le futur qui sont de plus en plus visibles et qui concernent plutôt les générations d'après. Et vraiment, je pense que ça peut être intéressant de faire discuter les plus jeunes avec les plus âgés.
Est-ce que le problème ne concerne que ce territoire ?
C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le sujet de l'eau... C'est un sujet qui est spécifique à Sommières parce que on appelle ça quand même les vidourlades. Vous avez carrément un nom spécial pour les inondations. Je veux dire, c'est un peu spécial. Tout le monde n'a pas, je sais pas, nous à Montpellier, moi je vis, il y a le Lez, on n'appelle pas ça les Lezades parce qu'ils débordent jamais, vous voyez. Donc c'est quand même assez marquant. Il y a ça premièrement. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, ça concerne largement au-delà de Sommières. C'est un exemple qui va être aussi intéressant si vous habitez à Lille. En ce moment, ils le savent, dans le Nord, il y a des grosses inondations en ce moment. Donc, ils savent très bien qu'il y a des questions autour de l'eau. Ou si vous habitez du côté de Strasbourg ou en montagne, où ils ont des vraies questions. J'ai fait un reportage il n'y a pas longtemps dans les Pyrénées. Il y a des villages où ils n'ont plus l'eau potable en ce moment. Là, ça y est, c'est revenu. Mais ils n'ont pas eu l'eau potable pendant plusieurs mois parce qu'à cause de la sécheresse, les niveaux des sources étaient trop basses. Et du coup, la question, c'est comment tu vis dans un village où toute ta famille y a été pendant 200 ans, et d'un coup, y a un problème, c'est que tous les hivers, il va falloir avoir que de l'eau cristalline en bouteille. Et je trouvais que ça raconte pour tout le monde. Donc, on trouvait que ce sujet, il est hyper large, et il touche la France, et au-delà, avec toutes les questions qu'on parle souvent du changement climatique et du réchauffement. Il y a de moins en moins d'eau qui tombe, et il y a de plus en plus de difficultés à gérer cette ressource, et ça devient une ressource.
Notre envie, c'est de s'intéresser à ce problème, comme tu disais, mais aussi aux solutions. Et finalement, en fait, le territoire de Sommières, parce qu'il a toujours vécu avec le Vidourle et autour de Vidourle, il a inventé plein de choses qui pourraient être reproduites ailleurs. Donc en fait, effectivement, il y a plein de problèmes et plein d'enjeux pour le futur, mais je pense que Sommières est un endroit qui peut aussi montrer l'exemple et montrer ce qui se passe.
On recommence.
Donc je pense que Sommières peut vraiment être un territoire qui montre au reste de la France les choses à faire, enfin, quelques petites choses à faire pour s'adapter au changement climatique.
Est-ce que le Vidourle sera-t-il affecté par le réchauffement climatique ou ça passera ?
C'est une bonne inquiétude que tu poses, on n'a pas la réponse pour l'instant. Forcément on est tous affectés par le changement climatique. Est-ce que ce sera dans des proportions où on va devoir vraiment s'en inquiéter, ou est-ce que ça va typiquement si vous participez au stage radio et tout ça, c'est une des questions qu'on pourra poser. Timothée et moi, on n'a pas la réponse, on est que journaliste, on n'est pas spécialiste des questions d'eau, mais par exemple on peut aller voir l'établissement qui gère le Vidourle, qui s'appelle l'établissement du bassin, qui gère tout ça. On peut aller voir des climatologues, on peut aller voir des journalistes qui bossent sur les questions d'eau, et justement ce qu'on propose de faire, c'est ça. C'est des questions que tu pourras poser à des gens qui s'y connaissent mieux que nous. Et le but d'un journaliste, c'est de s'informer auprès de gens qui connaissent mieux que nous et de le raconter à d'autres gens.
Ce podcast est maintenant terminé et on espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir écoutés. Merci également aux participants. Si vous avez aimé, si vous avez appris plein de choses et si vous avez accroché au monde des médias, nous vous invitons à venir avec nous au stage radio qui auront lieu à Sommières en février 2024. Au revoir et bonne journée à tous. Ouais.